J'avais 8 ans quand je suis partie de la Syrie. Et maintenant, je commence à oublier comme le voyage.
Comment tu te sens aujourd'hui ici, en France ?
J'ai pas de problème, ou beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Je parle assez bien le français et je suis très intégrée dans l'école. Je me sens comme si j'étais un français, j'ai pas de problème.
Le tragique incendie du camp de Moria sur l'île grecque de Lesbos nous a rappelé au début du mois le sort des centaines de milliers de réfugiés syriens contraints à l'exil par la guerre qui ravage leur pays depuis 2011. Chacun a aussi en mémoire la photo du petit Aylan Kurdi retrouvé mort il y a 5 ans sur une plage turque de la mer Égée. 5 ans après la prise de conscience européenne qui a suivi, nous vous proposons 3 éclairages. En France, où les Syriens ne sont que quelques milliers, en Allemagne, où la politique d'accueil a été très généreuse dès 2015, les Syriens y sont plus d'un million, et en Turquie, car c'est par la Turquie que transitent majoritairement les familles syriennes. Certaines, très nombreuses, s'y arrêtent. Le pays et ses 83 millions d'habitants accueillent actuellement 3 700 000 Syriens. Géraldine Allot arrive avec Claire Zerouni, sa traductrice, à İkiteli, l'un des quartiers d'Istanbul où se regroupent de très nombreux Syriens.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Bonjour, je m'appelle Claire, ça fait 6 ans que je vis à Istanbul et je serai votre traductrice et je vais vous accompagner à la rencontre de réfugiés syriens à Istanbul. On est dans le quartier là de İkiteli, il y a beaucoup de Syriens qui sont installés ici, qui ont ouvert des commerces. C'est aussi ici qu'il y a eu des agressions et des magasins qui ont été vandalisés l'année dernière. Et assez régulièrement, il y a des agressions contre les Syriens dans ce quartier.
Donc là, nous rentrons dans un magasin de vêtements qui est tenu par des Syriens. Salam. Hamza, vous avez 39 ans, vous travaillez ici dans ce magasin, vous venez d'Alep. Pourquoi les lettres sur la devanture en arabe ont été enlevées ?
Nous avons enlevé les lettres en arabe sur notre devanture depuis qu'il y a eu des attaques contre des commerces syriens dans le quartier. Aujourd'hui, la majorité des enseignes sont écrites en turc. Nous n'avons pas eu de casse dans notre magasin, mais le lendemain des attaques, la municipalité nous a demandé d'enlever nos panneaux en arabe. Nous, on ne veut pas de problème, alors on a obtempéré. Pourquoi ces agressions ont-elles eu lieu ? On a entendu dire qu'un Syrien avait agressé sexuellement une jeune femme turque ou qu'un Turc aurait agressé une jeune femme syrienne. On ne sait pas trop. En tout cas, tout est parti d'une rumeur d'agression.
Est-ce qu'avec la crise économique qui touche la Turquie, avec le chômage qui augmente, vous avez peur que ce sentiment anti-syrien se répande ?
Non, dans ce contexte de crise, tout le monde est dans le même bateau et cherche à s'en sortir. Moi, je vis parmi les Turcs. Peu importe ce qui arrive. Ce qui est important pour moi, c'est de payer mon loyer, régler mes factures, être dans les règles pour ne pas avoir de problème.
La Turquie accueille 3 700 000 Syriens, c'est beaucoup. Est-ce que ça peut expliquer ce sentiment d'exaspération qu'ont certains Turcs ?
Écoute, il y a finalement peu de Turcs qui sont racistes. La population voit qu'il y a un soutien de l'État turc envers les réfugiés syriens. Alors forcément, un Turc qui serait pauvre se demanderait pourquoi son État aide les étrangers plutôt que lui-même. C'est ce genre de choses, tu vois. Aucun autre État n'a aidé les Syriens comme la Turquie nous a aidés. Même si parfois notre présence suscite des réticences, on nous a vraiment bien accueillis ici. Quand nous sommes arrivés ici, ils nous ont accordé leur aide et les mêmes droits que les citoyens turcs. Il y a 8 ans, les portes de la Turquie étaient grandes ouvertes et les Syriens pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Depuis, la législation envers les Syriens s'est beaucoup durcie. Parce que la pression migratoire est forte et provoque des tensions entre les Turcs et les Syriens.
Nous sommes dans un petit restaurant syrien du quartier d'İkiteli et nous allons rencontrer Zakaria. Il a 25 ans. Il vient d'Alep, il est arrivé ici en Turquie il y a quelques années. Nous avons changé son prénom à sa demande et nous utilisons un tout petit micro parce qu'il préfère rester discret vis-à-vis de la population turque et des autorités turques également.
Quand la guerre a éclaté en Syrie, j'ai été intercepté à un checkpoint et on m'a incorporé de force dans l'armée syrienne. Je suis resté quelques mois dans l'armée, puis j'ai déserté et j'ai intégré l'armée syrienne libre. J'ai combattu plusieurs années aux côtés des révolutionnaires. Mais le conflit s'éternisait, des Syriens tuaient des Syriens, on était tous perdants. Alors, j'ai décidé de quitter le pays et de me réfugier en Turquie.
Zakaria a quitté la Syrie juste avant la grande vague migratoire de 2015. À l'époque, il suffisait de payer 200 dollars à un passeur pour franchir la frontière turco-syrienne. Aujourd'hui, la frontière est fermée, sauf à quelques points de passage. Un mur de béton et de barbelés sépare les deux pays. Zakaria vit désormais à Istanbul, dans le quartier d'Ikiteli, où il travaille au noir, comme de nombreux Syriens.
Je travaille dans une usine de textile tout près d'ici. On m'emploie à la journée. Avant, j'avais des contrats de travail hebdomadaires et même mensuels, mais je me suis fait souvent avoir. On me payait 15 jours de travail au lieu de 30. Donc, j'ai préféré devenir travailleur journalier. Je travaille et à la fin de la journée, on me paie. C'est 20 dollars la journée. Avec ce système, je peux travailler 5 jours et demi par semaine et avoir mes dimanches de libre.
Est-ce que vous connaissez des Syriens qui ont été agressés ou victimes de racisme ici en Turquie ?
Ça m'est arrivé il y a tout juste 3 jours. J'étais chez la famille de ma fiancée. Je suis reparti un peu tard, vers minuit, et j'ai hailé un taxi. Le temps que je monte dans le taxi, il a compris avec mon accent que je n'étais pas turc, mais syrien. Et il a commencé à avoir un comportement agressif avec moi. Il m'a dit de mettre mon masque alors que lui-même n'en portait pas. On n'avait même pas fait 200 mètres que le compteur affichait 6 livres. Je lui ai dit « Arrête-toi, je ne veux pas continuer avec toi » et je suis descendu de la voiture. Il a tenté de me rattraper et de me frapper. J'ai sorti mon téléphone pour prendre sa plaque en photo. Et là, il a foncé sur moi dans son taxi. J'ai juste eu le temps de sauter sur le trottoir pour l'éviter.
Nous sommes toujours dans le quartier d'Ikiteli et nous allons demander à des citoyens turcs ce qu'ils pensent de cette présence massive de Syriens parmi eux.
Je m'appelle Kadri, j'ai 47 ans.
Et donc vous tenez un magasin de fournitures scolaires ?
Oui, depuis 8 ans. Les Syriens sont nos frères musulmans. C'est normal que nous les accueillons. Oui, des tensions entre Turcs et Syriens sont apparues ici. Mais c'est normal. Quand des étrangers arrivent dans une société qui n'est pas la leur. Si seulement l'Europe avait pris sa part dans l'accueil des réfugiés syriens, il n'y aurait pas autant de tensions. Les Syriens ne seraient pas dans cette situation aussi difficile. La Turquie est seule à faire face à cette vague migratoire. L'Europe nous a déçus. L'aide promise n'est jamais arrivée.
Mais l'Europe a donné 6 milliards d'euros pour aider la Turquie à accueillir les réfugiés syriens.
Mais 6 milliards, qu'est-ce que ça représente ? C'est la Turquie qui a tout payé. Nous avons construit toutes les infrastructures pour accueillir les réfugiés. L'Europe n'a rien fait.
Mon nom est Esin Bozovali. Je suis avocate. Je travaille sur les droits de l'homme et les droits des réfugiés en Turquie depuis 5-6 ans. On suit aussi les dossiers de crimes racistes contre les réfugiés, principalement à Istanbul.
Ce qui est étonnant quand on voit cette population de réfugiés syriens qui est vraiment massive ici en Turquie, encore une fois, c'est 3 700 000 personnes, c'est qu'ils sont dans la société, ils ne vivent pas dans des camps, ils vivent parmi les Turcs.
Of course, yeah.
Oui, bien sûr.
And the main problem I can
Leur problème
say
principal aujourd'hui, c'est l'accès au travail, l'obtention d'un permis de travail. Ils rencontrent de grosses difficultés économiques car ils n'ont pas le droit de travailler. C'est pourquoi la plupart d'entre eux travaillent au noir et n'ont pas accès à la sécurité sociale. Beaucoup de réfugiés risquent en conséquence de se faire exploiter. Mais les droits de l'homme ne sont pas optionnels. Ce n'est pas un cadeau que l'on fait aux réfugiés. Ils ne demandent pas la pitié de la Turquie, ni la pitié de l'Europe.
On a un peu l'impression, 10 ans après le début du conflit, que les réfugiés syriens sont instrumentalisés. Erdogan a menacé en mars dernier d'ouvrir les frontières vers la Grèce et de laisser passer les réfugiés vers l'Europe. De l'autre côté, l'Europe a promis des fonds, 6 milliards d'euros, qui ne sont pas tous versés, loin de là. Et au milieu, il y a les réfugiés syriens traumatisés.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, même moi, quand je parle d'eux en utilisant des chiffres, je ne me sens pas à l'aise parce que ce sont des êtres humains. Ils ont chacun leur vie. Quand on parle de réfugiés, il ne faut pas penser qu'ils sont tous pareils. Ils ont chacun leurs propres pensées, leurs propres croyances, leurs propres besoins.
Claire, les réfugiés syriens qui sont ici en Turquie n'ont pas tous le même statut.
Beaucoup de Syriens bénéficient du régime de la protection temporaire qu'on appelle communément Kimlik, qui donne accès aux soins, à l'éducation et au travail, mais ils ne peuvent pas bouger de la région dans laquelle ils sont enregistrés. Le deuxième statut, c'est l'ICAMET, qui est une résidence court séjour, qui est ouverte finalement à tous les étrangers, mais qui ne donne pas l'accès au travail. Les plus chanceux ont pu accéder à la nationalité turque, mais elle n'est accessible qu'à des profils particuliers type médecin, ingénieur.
Et enfin, il y a tous les Syriens, et ils sont nombreux, qui n'ont pas de papier, qui n'ont aucun statut.
Oui, malheureusement, et il devient de plus en plus difficile pour les nouveaux arrivants de s'enregistrer. À Istanbul, par exemple, il n'y a absolument pas la possibilité de pouvoir obtenir des papiers.
L'an dernier, les autorités turques ont expulsé des centaines de réfugiés syriens vers la région d'Idlib, ce qui est contraire au droit international, car la Syrie est un pays en guerre. La Turquie parle officiellement de retour volontaire.
Comment peuvent-ils arrêter, menotter, mettre dans un bus et renvoyer à Idlib quelqu'un qui a essayé d'échapper à la mort? Tu les renvoies vers la mort.
Nous rencontrons Salim, qui vit depuis plusieurs mois sous la menace d'une expulsion.
Un jour, en allant au travail en métro, j'ai vu un groupe de policiers arrêter des Syriens et les obliger à monter dans un bus. Je suis rentré me cacher chez moi tout de suite. Psychologiquement, c'était dur, car non seulement les policiers arrêtaient les Syriens dans la rue, mais ils allaient aussi les chercher chez eux. À chaque fois que j'entendais la porte de l'immeuble s'ouvrir, je me disais que c'était la police qui venait me chercher. Je vivais dans un tel état de peur, personne ne peut imaginer. J'étais prostré et j'attendais que la police vienne me chercher.
Comment se passe son quotidien alors? Il était obligé de se cacher, obligé de vivre vraiment sous les radars?
Je n'ai pas de vie quotidienne. Je suis resté 2 mois calfeutré chez moi. Moi, j'ai quitté la Syrie pour me sentir en sécurité. Je ne veux pas me sentir à nouveau enchaîné. J'aimerais que le monde entier entende ce que je vous dis. Dans tous les pays, il peut y avoir du racisme envers les réfugiés, mais en général, il y a des lois pour les protéger. Ici, aucune loi ne nous protège. Pardon de vous dire cela comme ça, mais moi, je refuse le mot de réfugié. Moi, depuis le jour de mon arrivée en Turquie, je travaille, je m'assume financièrement. Je n'ai rien demandé au gouvernement turc. Je paye mon loyer. Moi, j'essaye de m'intégrer, mais l'État turc ne me donne pas ma chance.
Bonjour, je m'appelle Solène Poiras. Je suis affiliée à l'IFEA, l'Institut français d'études anatoliennes. Je suis chercheuse. Je travaille sur les effets de la crise syrienne sur l'espace politique turc, depuis 2011, bien sûr.
L'an dernier, Erdogan n'a pas hésité à expulser des centaines de Syriens dans la région d'Idlib, donc en Syrie, sous les bombardements. Et ça, c'est illégal d'un point de vue du droit international. Pourquoi il s'est mis à expulser des centaines de Syriens ?
Alors souvent, dans la politique turque, c'est pour montrer, même si on renvoie trois personnes, c'est important que la population voit que la Turquie fait des choses pour renvoyer des personnes. Pourquoi il l'a fait à ce moment-là ? Parce que c'est un moment où on arrive peut-être à une lassitude de l'opinion publique par rapport à la présence syrienne, qui n'a en fait rien à voir avec la population syrienne, mais qui est une lassitude plutôt économique, en fait, d'étouffement économique de la population, des classes moyennes en Turquie.
Lui, Erdogan, il parlait de retour volontaire, mais on sait très bien que ça n'a pas été le cas, en tout cas pas tout le temps. Il y a beaucoup de Syriens qui ne voulaient pas revenir en Syrie et qu'il a expulsé tout de même.
Oui, souvent, c'est même pas des gens d'Idlib qu'on envoie à Idlib, donc on peut pas parler de retour, c'est plutôt des départs forcés. C'est une expulsion, une déportation, en fait.
La Turquie dit qu'officiellement, elle a dépensé 40 milliards de dollars pour l'accueil des réfugiés syriens depuis 2011. C'est énorme, ça vous semble plausible ?
En termes d'accès à la santé et d'accès à l'éducation, peut-être dans les projets locaux, il y a pu avoir de l'argent dépensé. Sinon, cette somme a plutôt été dépensée en armes pour intervenir dans les provinces syriennes.
3 700 000 réfugiés syriens, c'est énorme. Aucun autre pays accueille autant de réfugiés que la Turquie.
Oui, c'est le premier pays d'accueil. Pour les Syriens, je pense, il y a une certaine flexibilité qui permet de s'insérer, je ne parle pas d'intégration, mais de s'insérer dans des réseaux économiques, de trouver un appartement peut-être un peu plus facilement que dans les pays européens. Donc effectivement, ils sont moins protégés, ils sont beaucoup plus précaires que s'ils avaient reçu un statut en Europe, mais on a toujours des stratégies d'insertion sur le marché économique, où voilà, vraiment, on voit à Fatih ou à Kiteli, si vous y êtes allé, on a un certain capital, on ouvre un petit commerce, on parle même de quartiers syriens. On parle de quartiers syriens aujourd'hui à Istanbul.
Loin d'Istanbul et tout près de la frontière syrienne se trouve la ville de Gaziantep. Troisième pôle économique turc, on y trouve de la plasturgie et des industries chimiques et textiles.
L'usine de Bachir, elle est de l'autre côté. Il y a plein d'usines d'emballage, de tapis, de textiles.
On y trouve surtout 400 000 Syriens, soit environ 20% de la population totale, qui se sont intégrés et qui sont le moteur du dynamisme de la ville. C'est dans une zone industrielle de Gaziantep qu'on retrouve Géraldine Allo et Claire Zerouni.
Bachir Kadan, vous avez 50 ans, vous avez quitté Alep en 2013, vous aviez une usine de plastique à Alep qui a été complètement détruite. Vous êtes arrivé ici à Gaziantep et vous avez tout reconstruit.
Quand nous sommes arrivés ici, nous sommes repartis de zéro, parce que tout était détruit en Syrie. Nous ne sommes pas venus les poches pleines, mais avec un peu d'argent de côté. Nous avons construit petit à petit une usine, pas une grosse usine, mais une petite. On a racheté des machines, on a étendu notre activité. Petit à petit, j'ai gagné des clients turcs et maintenant mes associés sont turcs. Aujourd'hui, je travaille à 90% au contact de Turcs. Ils nous ont tous acceptés maintenant. C'est OK.
Il y a quelques jours, nous étions à Istanbul et parmi les réfugiés syriens, certains témoignent d'un sentiment anti-syrien de la part des Turcs. Est-ce que vous le ressentez ici ?
C'est une question difficile. Je vous ferai une réponse en deux parties. Pour le business, il n'y a aucun problème, quelle que soit votre nationalité. Mais à côté de cela, oui, nous avons des difficultés avec les Turcs. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Moi, par exemple, j'ai des voisins dans mon immeuble qui n'acceptent pas les Syriens. Mes enfants jouent avec leurs enfants et ils ne l'acceptent pas. Ils ont l'air de penser que nous allons leur prendre quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. J'ai acheté mon appartement, mais quel est le problème ? Je ne connais pas la raison d'une telle attitude, mais c'est ce que je ressens.
Mais la Syrie vous manque ? Ça vous arrive de regretter d'être parti ?
Oui, à 100% tous les jours. Toute ma famille n'est pas ici en Turquie. Une partie est restée en Syrie. Quand je suis arrivé en Turquie, j'avais 42 ans. Pendant 42 ans, j'ai vu la même ville, les mêmes rues, les mêmes gens. Ce n'est pas facile de tout oublier.
Gaziantep ressemble beaucoup à Alep, la grande ville du nord de la Syrie. Les Syriens disent souvent qu'à Gaziantep, il y a le même climat, la même cuisine et les mêmes traditions qu'à Alep. D'ailleurs, à l'époque de l'Empire ottoman, Alep et Gaziantep faisaient partie de la même région administrative. Il n'y avait pas de frontière entre la Turquie et la Syrie.
On peut enlever nos chaussures à l'intérieur.
Vous êtes en train de préparer le café comme en Syrie.
Yeah, it's the, like here Turkish cafe, but soft. It's soft. No, it's good.
Raoula, vous avez quitté la Syrie avec votre mari il y a plus de 7 ans maintenant. Vous êtes réfugiée ici à Gaziantep. Vous étiez des opposants historiques à Bachar al-Assad et avant lui à son père Hafez. Et c'est pour ça que vous avez quitté la Syrie, vous étiez en danger là-bas. 7 ans après votre départ, comment vous voyez la révolution ? Bachar al-Assad a récupéré plus de 70% de la Syrie. Est-ce que selon vous, la révolution est terminée ?
À mon avis, on ne peut plus parler de révolution.
On pouvait parler de révolution en 2011 et jusqu'environ 2013 quand on est parti. La révolution, c'était un mouvement pacifique. C'est comme ça que ça a commencé. C'est un mouvement qui cherchait à transformer la société, l'économie, la politique en Syrie. Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus parler de révolution ? C'est ce qui s'est passé après et c'est notamment comment ça s'est transformé en conflit armé qui a divisé les territoires, qui a divisé la Syrie et qui a mis à feu et à sang le pays.
Gaziantep a longtemps été le siège de l'opposition en exil. Il y avait des diplomates du monde entier qui venaient ici vous rencontrer, vous l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition n'existe quasiment plus. Bachar a reconquis le pays. Est-ce que pour vous, qui avez été en prison longtemps avec votre mari, ce n'est pas un crève-cœur ?
On sait que politiquement, rien n'est jamais stable. Quand, par exemple, les États-Unis définissent comme dépassement de la ligne rouge les bombardements chimiques qui ont été menés par le régime syrien sur la région de la Ghouta, ou que la Turquie considère que le régime syrien a dépassé une ligne rouge lorsque le régime bombarde les faubourgs de Damas, tout cela n'est que du discours. Les pays n'ont pas tenu leurs engagements et tout s'est fait au détriment toujours du peuple syrien.
Interception sur France Inter.
En août 2015, Angela Merkel avait largement ouvert les frontières de l'Allemagne aux Syriens avec son slogan
« Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. »
Wir schaffen das, nous pouvons le faire. Et ils l'ont fait. L'Allemagne a accueilli plus d'un million de réfugiés syriens. Et 4 ans plus tard, en 2019, on estimait que 400 000 d'entre eux avaient soit trouvé un emploi, soit suivaient une formation. Il faut dire que la pyramide des âges en Allemagne était assez favorable, l'industrie manquait clairement de main-d'œuvre non qualifiée. Et de façon très pragmatique, le patronat allemand a joué le jeu. Cours de langue offerts au sein des entreprises, accès au système d'apprentissage, déjà mieux développé outre-Rhin qu'en France, et communication vers les salariés d'origine allemande.
Karl Schroeter, le patron de cet abattoir à Stuttgart, forme lui-même ses employés.
Il faut toujours découper la viande d'un geste sec et droit. Mets ta main comme ça et coupe droit. Il y a peu d'Allemands qui veulent faire ce travail.
Mais si l'arrivée des réfugiés a été une bonne chose pour l'économie allemande, le tribut politique payé par la chancelière a été plutôt lourd. Les élections de septembre 2017 envoient au Bundestag 91 députés du parti d'extrême droite AfD, un séisme politique sans égal depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
On va pourchasser Madame Merkel et les autres et on va reprendre le contrôle de notre pays pour le rendre au peuple.
La politique d'Angela Merkel suscite de plus en plus de réticences dans le pays. En juin 2019, le préfet Walter Lübcke est assassiné devant chez lui, à Cassel. Ce représentant de l'État s'était à plusieurs reprises prononcé en faveur de la politique d'accueil. Son assassin présumé, Stefan Ernst, était connu pour sa proximité avec la mouvance néo-nazie.
Un attentat d'extrême droite contre un représentant de haut rang de notre pays constitue un signal d'alarme et nous vise tous autant que nous sommes.
Pourtant, le 9 septembre dernier, au lendemain de l'incendie du camp de Moria, des milliers d'Allemands manifestaient encore leur solidarité avec les réfugiés. Ludovic Piétenu, envoyé spécial permanent de France Inter en Allemagne, était au cœur de ce rassemblement berlinois.
On est à Berlin, ce que vous entendez, c'est un concert de sonnettes de vélo. C'est très berlinois comme façon de protester. La nuit dernière, le camp de Moria, ce camp de réfugiés sur l'île de Lesbos en Grèce, a été victime d'un incendie. Plus de 13 000 réfugiés qui vivent là, déjà dans des conditions très précaires, ont vu leurs abris de fortune réduits en cendres. Et spontanément, des milliers de personnes, quand je dis des milliers de personnes, c'est réellement beaucoup de monde, se sont spontanément mobilisés, se sortent dans la rue. Et c'est peut-être la preuve, ce soir, que le pays n'oublie pas les réfugiés, n'oublie pas cette cause. La population, depuis 5 ans, s'est beaucoup engagée aux côtés des réfugiés qui sont arrivés dans le pays. Plus d'1,3 million ont été accueillis en Allemagne en 2015 et 2016 seulement. Et on dit que plus d'un Allemand sur deux a depuis 2015, de près ou de loin, aidé les réfugiés. Wir haben Platz. Nous avons de la place. Nous pouvons les accueillir, ces réfugiés. On est ici dans cette rue très passante du quartier de Schöneberg à Berlin, c'est au sud de la capitale, devant le restaurant Damascus Aroma, les arômes de Damas, tenu par Zamer Zarawan et sa femme Arij, qui ont réalisé ce rêve d'ouvrir leur restaurant il y a un an à peine.
Allô, grüß dich.
Allô Zamer.
Allô.
Zamer Zarawan, quel est le souvenir le plus fort pour vous quand vous êtes arrivé ici en Allemagne? Quelles ont été les premières émotions, les premières sensations? Est-ce que vous vous êtes dit, c'est ici que je veux vivre?
Ma femme et moi, nous sommes arrivés en 2015 en Allemagne. Nous sommes arrivés à cause de la guerre en Syrie.
Normalement, dans un curriculum vitae, on fait le résumé des différentes étapes de sa vie, donc quelles écoles on a étudiées, quelles universités. Mais dans nos curriculum vitae, il n'y a qu'un point, c'est la guerre. Il y a l'époque de l'avant, puis est arrivée la guerre, et on a tout perdu.
Puis
nous sommes arrivés en Allemagne et c'est là où l'après-guerre a commencé pour nous. Et nous, on a eu le ressenti d'être nés une deuxième fois. Si on pose la question de savoir quel âge j'ai, souvent j'ai l'impression d'avoir tout juste 5 ans.
Vous avez avec vous, Zamer Zarawan, l'expérience. Vous teniez une entreprise d'import-export en Syrie et donc vous vous êtes servi de ces talents d'entrepreneur pour les exploiter ici en Allemagne?
Dans une optique de vie normale, ça aurait été le bon résumé. Mais pour nous, c'était complètement autre chose. On a quitté la guerre, on arrive dans une nouvelle vie et il faut la reconstruire de A à Z.
Arij, zum Beispiel, sie war vor 6 Jahren in
Syrien. Ma femme, par exemple, pendant 6 ans, elle a travaillé comme avocate en Syrie. Et maintenant, c'est complètement différent.
Quand on repart à zéro, quand il faut tout recommencer, par quoi on commence?
Nous avons, pour commencer, beaucoup d'amis allemands.
Wir haben mit einem Freund getroffen
Nous avons par exemple rencontré un ami chez l'association Gewerkschaft Ein. Mon épouse et moi, nous avons par exemple participé en tant que guide aux visites touristiques qu'on propose dans la ville de Berlin. Et cela est intitulé « Les réfugiés montrent leur vision de la ville ».
C'était une façon aussi pour vous de gommer les idées reçues.
Exactement, c'est tout à fait ça. C'est des gens qui sont venus à notre rencontre, des gens qui n'avaient pas trop d'idées préconçues, peut-être même quelques préjugés en amont, mais pour eux, c'est devenu quelque chose de tout à fait normal de rencontrer des réfugiés. J'ai compris que ce qu'on appelle en allemand dans le texte le storytelling, c'est-à-dire les narrations, est une bonne chose pour construire des ponts. Et encore mieux, autour d'une table. Et c'est la raison pour laquelle maintenant nous avons ce restaurant qui est bien plus autre chose qu'un restaurant. C'est un lieu de rencontre. Des gens peuvent échanger ici, ils peuvent se prendre tout leur temps dont ils ont besoin et c'est une sorte de création d'une nouvelle famille.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
En France, les Syriens sont beaucoup moins nombreux qu'en Allemagne. Ils seraient une vingtaine de milliers d'adultes, un peu moins selon les sources. Plusieurs facteurs, barrières de la langue, crise du logement, expliquent leur relatif désintérêt pour notre pays. Leur situation est gérée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Oui, bonjour monsieur, Yann Gallic.
Yann Gallic a rendez-vous dans le 15e arrondissement parisien avec Didier Lesky, le directeur général de l'OFI.
Les Syriens continuent à être parmi les premiers flots de demandeurs d'asile en Europe, dans une situation où la demande d'asile a baissé en Europe. Les Syriens continuent à privilégier l'Allemagne ou l'Autriche ou l'Europe du Nord, viennent très peu en France. Aujourd'hui, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides totalise comme personnes protégées en France 18 244 réfugiés syriens protégés. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les Syriens ne sont pas venus en France. Par rapport à la situation économique de la France, de l'Allemagne, ils sont plutôt allés dans des pays où ils pensaient que les perspectives économiques étaient meilleures. C'est pour ça que j'ai cité l'Allemagne, mais on peut rajouter la Suède, les pays d'Europe du Nord, c'est-à-dire des pays où le niveau de chômage est beaucoup plus faible qu'en France et où les questions de langue leur apparaissaient moins compliqué. La France n'est pas un pays où on peut facilement travailler en dehors de l'apprentissage du français. On avait et on a une tradition francophile en Syrie. Donc on a des personnes qualifiées syriennes qui parlaient le français. Elles sont en général issues des classes supérieures syriennes, souvent chrétiennes. Cela arrive plus ou moins à trouver des modes d'insertion au bout d'un, deux ou trois ans. Mais globalement, ceux qui n'ont pas de qualification, et c'est en particulier le cas de ceux qu'on a très souvent relocalisés, le débouché principal de ceux qui obtiennent une protection, c'était le bâtiment et la restauration, le commerce. La crise sanitaire que nous traversons a des impacts très forts dans ces deux secteurs et donc amplifie encore les difficultés d'insertion. C'est vrai pour les Syriens, mais c'est vrai globalement pour l'ensemble des réfugiés.
Certains pays européens ont mis des moyens, je pense notamment à l'Allemagne, pour essayer d'accueillir au mieux ces réfugiés, leur offrir même des formations, des cours de langue. Est-ce que c'est le cas aussi de la France ?
La différence entre la France et l'Allemagne, c'est que la capacité de mettre les personnes en situation de travail accélère l'apprentissage de la langue. Et on a des dispositifs qu'on essaie de développer en France de type d'apprentissage qui sont beaucoup plus développés justement en Allemagne et qui permettent d'accélérer le processus d'intégration. Mais tout ça est très long et suppose une articulation entre le lieu où on va travailler et le logement. Il est très difficile d'avoir des logements là où il y a du travail et là où on a des logements vacants, on n'a pas forcément du travail.
Nous sommes dans le centre-ville de Rennes, devant un immeuble HLM fraîchement repeint. C'est ici qu'habitent Aïd et Dia avec leurs 5 enfants. Originaire de Palmyre, cette famille syrienne a obtenu le statut de réfugié en France et elle est installée en Bretagne depuis 3 ans.
entrez à vous.
Merci.
Merci.
Vous êtes dans un grand appartement?
C'est 90 mètres carrés.
Cuisine.
Après, c'est la chambre de mon fils, la mère Ahmad, mais il a barongé.
Il a quel âge, votre grand-fils?
13 ans.
Et ah, oui. Vos autres enfants? Donc, il y a la petite,
c'est là? Ah oui, c'est le seul qui est né ici en France. Elle s'appelle Lynn.
Oui.
Là, je vois, sur le, au-dessus du bureau, il y a ah, un diplôme, c'est écrit en arabe, c'est quoi?
Ah oui, c'est mon diplôme parce que j'étais pharmacien.
Vous étiez pharmacien à Palmyre.
À Palmyre, en Syrie, oui. J'étais pharmacien et ma femme, elle était professeure d'histoire. Mais après la guerre, on quitte tout. La maison, la pharmacie, tout. J'ai perdu tout.
Ah oui, regarde, c'est en Syrie. Ah, ça, c'est une photo que vous avez prise en Syrie.
C'est ma fille Aya.
Cette photo, elle a été prise dans votre maison à Palmyre.
Ah oui, oui, c'est oui. Ça. À Palmyre, j'ai une grande maison.
Et un jardin autour de la maison. Mais on a perdu ça. Donc, la guerre, elle commence le soir. Le matin, on a parti de la maison. J'ai laissé tous mes affaires. J'ai pris juste une valise et c'est tout.
Quand est-ce que vous avez quitté Palmyre, que vous avez fui la Syrie?
Le 14 mai 2015.
Quand Daesh est arrivé à Palmyre.
Ah oui. C'était horrible, habiter avec Daesh. Il a tué les gens de la rue.
Quand vous avez quitté Palmyre, vous êtes allé où?
En Turquie. Il faut traverser la mer Égée.
La mer Égée.
Ah oui.
Et vous avez fui tous ensemble?
Non, je reste en Turquie. Après, je retourne à Syrie. Je dis à mon mari, c'est pas possible pour partir en France dans cette manière. Je peux pas faire ça avec mes enfants. Oui, pour ça, je retourne en Syrie.
Pendant un an et demi, elle reste là toute seule avec trois enfants et moi avec mon fils. Ici en France, c'était la première année, c'était très difficile pour moi et pour mon fils.
Donc vous avez pris le bateau tout seul, Aïd, avec votre fils, votre grand-fils,
oui.
Pour rejoindre l'Europe?
Oui, c'était un petit bateau, c'est gonflé, je ne sais pas.
C'est un bateau pneumatique.
Ah oui, c'est ça, oui. Ah oui, c'était...
Et vous étiez combien sur le bateau?
Nous étions 46 personnes. Après, on traverse 7 pays. Pour arriver en France. C'était très, très difficile.
Vous avez réussi à faire venir toute la famille ici en France au bout d'un an et demi. Une fois que vous avez obtenu le statut de réfugié.
Ah oui, oui.
Comment ça se passe depuis que vous êtes arrivé en France, Haïd? La principale difficulté, ça a été d'apprendre le français?
Nous, on parle bien français parce qu'on n'y pratiquait ça. Si j'ai un travail, peut-être j'ai progressé plus vite, moi et ma femme. C'est un autre problème, on ne travaille pas, je n'ai pas trouvé un travail possible pour moi. C'est très difficile.
Je cherche un travail, mais je ne trouve pas. J'ai commencé à apprendre la langue française 5 jours par semaine, 4 heures chaque jour, oui.
Mais en attendant, vous, comment vous vivez? Vous avez des aides?
Ah oui, j'ai obtenu le RSA, moi et avec ma femme, et les aides pour les enfants. C'est pas seulement j'ai obtenu le RSA et vivre. Je voudrais être un membre qui il travaille et donne les impôts et comme tout le monde.
Michel Morzière, vous êtes le président d'honneur et le fondateur de l'association Revivre.
Oui.
Qui aide les réfugiés syriens à s'installer en France.
Oui, on essaye de les accompagner au maximum, les aider dans leurs papiers. On suit 100 à 110 dossiers par an dans notre local.
Votre local qui est ici dans le quartier de Belleville.
De Belleville.
Dans le 20e arrondissement de Paris.
Vous
proposez des cours de français gratuitement aux réfugiés.
Oui. Et là, ce qu'on veut vraiment mettre maintenant au point, parce qu'on sent que c'est nécessaire, c'est une cellule pour l'insertion professionnelle.
On va vous suivre dans le local de l'association. Je passe devant. Dans l'entrée, d'ailleurs, il y a le drapeau
de la révolution
syrienne.
Ah bah oui, nous on est clair. On ne veut pas d'ambiguïté.
Je vois aussi qu'il y a des jeux pour les enfants.
Des jeux pour les enfants, importants, quand ils sont ici. Voilà.
Vous avez aussi une permanence d'accueil pour l'accompagnement administratif.
Bon, et puis, alors attendez, vous savez, le problème en France, c'est un véritable parcours du combattant. Déjà, pour avoir un rendez-vous au guichet unique de demandeurs d'asile, c'est terrible. Pour avoir ensuite la possibilité de trouver une place dans un CADA, centre d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est très compliqué. Là, et puis ensuite, vous avez les dépôts à l'OFPRA. Le problème de notre pays, c'est le problème administratif.
Les Syriens qui arrivent en France, pour la grande majorité d'entre eux, obtiennent ce qu'on appelle le statut de réfugié.
Alors, il y a deux cas. Soit ils obtiennent le statut qu'on dit avec la carte de 10 ans, soit la protection subsidiaire, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant c'est 4 ans. Les droits sont les mêmes dans les deux cas de figure. Sauf qu'il y en a un, bon, ils sont sûrs de rester, pas de problème, et que l'autre, on peut ne pas le renouveler.
Donc tous les 4 ans, quand on bénéficie de la protection subsidiaire, on doit reformuler sa demande.
On doit reformuler. Globalement, j'ai cru comprendre, on donne la carte de 10 ans à des personnes qui, dans tous les cas de figure, s'ils devaient rentrer en Syrie, ça risquerait pour eux, pour leur vie. La protection subsidiaire, on dit, c'est les gens qui ont quitté leur pays parce que c'était la guerre, mais que si la guerre se termine, ils peuvent retourner dans leur pays. Alors moi, je suis très inquiet, parce qu'on a vu au fil des années s'inverser le taux entre la protection subsidiaire et la carte de 10 ans. On n'a pas la structure pour bien accueillir. C'est pour ça que ça fait peur. À la limite, je pense que certains officiels ne sont pas anti-immigration, certains, mais ils sont inquiets en disant « Attention, on a déjà du mal à organiser le peu qui vient. Si demain, on a un afflux important, même organisé, de réfugiés syriens, irakiens, on est inquiet parce qu'on ne sait pas bien traiter les flux importants. » Et je dis attention, ce qui se passe actuellement en Turquie, en Grèce, c'est une bombe à retardement. Donc il faut qu'on s'organise pour l'accueil des réfugiés.
Retour dans le centre-ville de Rennes, nous retrouvons Aïd Al-Mohamed et ses enfants à la sortie de l'école.
Les enfants, il a appris très bien, il a progressé très bien. Il parle très bien, couramment, en français. C'est pas comme moi. C'est la première chose pour moi, c'est l'éducation.
Vous êtes en quelle classe?
CM2.
Avec Mohamed, CM2, ouais.
Mohamed, il est en CM2.
C'est la même classe?
Oui.
Vous savez de quel pays il vient, Mohamed?
Oui, la Syrie. Il y a la guerre.
Ah, yeah. Salam alaikum.
Tu as quel âge, Aïda?
9 ans et demi.
T'as quel âge, toi, Mohamed?
Moi, aujourd'hui, j'ai 11 ans.
Ah, c'est ton anniversaire aujourd'hui, ta maman, des années. Et toi?
Je m'appelle Yazan.
T'as quel âge, Yazan?
6 ans.
Aïda, tu te souviens, toi, quand t'es arrivée en France?
Oui, un peu.
Et qu'est-ce que tu t'es dit quand t'es arrivée en France? Tu parlais pas la langue?
Je parlais juste un peu oiseau, stylo, oui, non, voilà.
C'est les seuls mots que tu connaissais quand tu es arrivé ici. Et toi, Mohamed?
Je me suis dit que le français, au début, c'était une langue dure.
En combien de temps vous avez appris le français?
Quelques mois.
Tu sais déjà ce que tu veux faire quand tu seras grande?
Oui, je veux être une docteur. Docteur des yeux.
Ah, ophtalmo.
J'avais 8 ans quand je suis partie de la Syrie. Et maintenant, je commence à oublier comme le voyage. C'est comme si j'ai commencé une autre vie. Mais après, en Syrie, je me souviens un peu de l'école et de mes amis. Je me souvenais quand il y avait des bruits de bombardements et de balles. On ne pouvait pas dormir. Alors que là, dans ma chambre, j'ai ma liberté. Je fais ce que je veux ici. C'est plus agréable, on se sent léger. On n'est pas toujours dans le stress, on a peur, on ne bouge pas où on veut parce que c'est dangereux ici, il n'y a pas de danger.
Comment s'est passée l'intégration en France pour toi?
Je me souviens, le premier jour, j'avais peur de rentrer dans l'école. Quand j'ai vu ce grand portail devant, j'avais très très peur. Je disais que je ne savais pas parler français, ils ne vont pas me comprendre, je ne vais pas les comprendre. Du coup, j'avais peur, j'ai même pleuré pour ne pas aller à l'école. Mais après, j'y suis allée. Et quand je suis allée, j'ai adoré. J'ai eu des amis très vite. Après, j'ai commencé à jouer avec eux. Et du coup, ça m'a facilité l'apprentissage. J'étais dans une classe spéciale pour les personnes étrangères qui ne parlent pas français. Et je me souviens encore de ma professeure. Elle était très très gentille. Elle nous apprenait, moi et quelques autres élèves, la langue française.
Comment tu te sens aujourd'hui ici, en France ?
J'ai pas de problème, ou beaucoup beaucoup moins qu'avant. Je parle assez bien le français et je suis très intégrée dans l'école. Je me sens comme si j'étais un français, j'ai pas de problème.
Et tu aides parfois tes parents ? Comme tu parles bien français, hein, tu les aides parfois pour les papiers administratifs, les démarches.
Oui, bien sûr, là, c'est mon travail dans la famille, je les aide. Enfin, c'est comme une obligation pour moi, je dois les aider, c'est mon devoir de les aider.
Au revoir les enfants. Salut, au revoir. Merci.
5 ans après la crise migratoire, le destin contrasté des exilés syriens. C'était un reportage de Géraldine Allot et Gilles Gallinaro en Turquie, Ludovic Piétenu et Stéphane Foulon en Allemagne, Yann Gallic et Alexandre Martin en France. Réalisation Violaine Ballet, assistée de Martine Messonnier, mixage d'Ofar Guérid. La semaine prochaine, on s'interrogera sur l'avenir de la monnaie physique. Nos espèces sont-elles menacées ? C'est un reportage de Juliette Micheneau.